flagorné. Quelle que soit l'étymologie de ce mot, qui demeure douteuse, le sens ancien, on n'a pas d'exemple au-delà du XVe siècle, est bavarder, dire à l'oreille. Puis ce sens se perd et, sans transition, du moins je ne connais pas d'exemple du XVIIe siècle, on voit au XVIIIe siècle flagorné prendre l'acception qui est seule usitée présentement. Quelle est la nuance qui a dirigé l'usage pour infliger au verbe cette considérable perversion? Est-ce que, inconsciemment, on a attribué par une sorte de pudeur linguistique à la flagornerie le soin de parler bas, de ne se faire entendre que de près et à voix basse? Ou bien plutôt, est-ce que la syllabe initiale « fla » étant commune à flagorner et à flatter, l'usage qui ne sait pas se défendre contre ces sortes de confusions a créé une communauté d'origine et de sens? Flatter. Le latin avait blandiri dont le vieux français fit blandir. Mais les couches populaires n'étaient pas un milieu où tous les beaux mots avaient eu le droit ou la chance de pénétrer, et leur parler, qui fit souvent la loi, chercha un vocable qui fût plus à leur portée. Le germanique flat ou flats, qui signifie plat, avait passé dans les Gaules. On en fit le verbe flatter, qui signifiait proprement rendre plat. Puis alla figurément au sens de caresser, comme avec la main, et par suite de flatter. C'est ainsi que l'on suppléa blandiri, qui ne devint pas populaire, et adulari, qui n'a laissé dans la langue Doyle aucune trace. Adulateur ne se trouve que dans le XIVe siècle, et adulé dans le XVe. Ce sont des mots savants, forgés directement du latin. La vieille langue en eût fait le substantif aulere, auleor et le verbe aulé. Franchir. Personne de ceux qui emploient couramment ce verbe ne songe au sens propre et ancien. Dans la langue des Hautains, il n'a que la signification de rendre franc, libre. Et s'il avait conservé jusqu'à nous, on s'indignerait de l'audace du novateur qu'il emploierait pour signifier traverser franchement, résolument des obstacles. Ce hardi néologisme s'est opéré au XVe siècle. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il a fait tomber en complète désuétude l'acception légitime et qu'il est resté seul en possession de l'usage. Dans l'opinion commune, l'usage est un despote qui fait ce qu'il veut, sans autre règle que son caprice. Mais son caprice même ne peut se soustraire aux conditions que chaque mot présente. Et quand on recherche ces conditions, on trouve qu'il a obéi autant qu'il a commandé. Fripon. Fripon, au début de son emploi, signifia seulement gourmand, aimant à manger. C'est au XVIIe siècle que le changement de sens s'opère. Cependant, friponner, qui veut dire bien manger, commence au XVIe siècle dans Montaigne à prendre le sens actuel et moderne. Aujourd'hui, le sens original est complètement oublié. Ici encore, l'acception néologique a tué l'acception primitive. Tout en blâmant ces exécutions qui sacrifient complètement l'ancien au nouveau, ce qui importe ici, c'est de concevoir par quelle déviation l'usage a passé de l'un à l'autre. Le fripon, gourmand, est entaché d'un défaut. De plus, il est fort enclin au petit larcin pour satisfaire sa gourmandise. Et c'est là que le néologisme a trouvé son point d'appui, pour faire d'un gourmand un filou. Fripon, au lieu de se plaindre d'avoir été ainsi métamorphosé, c'est une dégradation, car d'un défaut léger qui n'est pas toujours mal porté, on a fait un coquin, un voleur. D'autres mots tombent de plus haut, mais ce n'est pas moins une chute. Fronder. Qui aurait jamais imaginé que fronder c'est-à-dire lancer une pierre ou une balle avec la fronde, engin qui n'est presque plus en usage, prendrait le sens de faire le mécontent, critiquer. C'est un hasard qui a produit ce singulier résultat. Au temps des troupes de la minorité de Louis XIV, des enfants avaient l'habitude de se réunir dans les fossés de Paris pour lancer des pierres avec la fronde, se dispersant dès qu'ils voyaient apparaître le lieutenant civil et revenant quand il n'était plus là. Bachaumont compara un jour le Parlement à ces enfants qui lançaient des pierres que la police dispersait et qui revenaient pour recommencer. De là vint la fronde, nom de la révolte contre Mazarin et contre l'autorité royale, et la fronde produisit sans peine le verbe fronder. Gagner. Ce verbe, par son étymologie germanique, a le sens de paître, qu'il a conservé en termes de chasse et d'engagnage, qui veut dire pâturage. La langue d'oïl, du sens rural de pâture, a passé à l'acception rurale aussi de labourer. Puis le profit fait par la culture s'est donc gagné, généralisé, a signifié toutes sortes de profits. Seul sens resté en usage. La même déviation de signification se voit dans le provençal ganzanare et l'italien guadagnare. Cette déviation mérite d'être notée à cause du fait parallèle que la langue latine présente. Le latin pecunia, qui signifie argent, monnayer, est originairement un terme rural, par pecus, mouton, bête de compagnie, bête de campagne. Le mot latin nous reporte à un temps très ancien, où dans la vieille Italie, les troupeaux faisaient la principale richesse. Gagné d'une époque beaucoup moins reculée. Pourtant, lui aussi représente un état de choses où la puissance tient un haut rang dans la fortune des hommes. C'est que l'invasion germanique, à laquelle le mot gagné appartient, avait reproduit quelques-unes des conditions d'une société pastorale. Galetas. Quelle déchéance! À l'origine, Galata est le nom d'une tour de Constantinople. Puis, ce mot vient à signifier un appartement dans la maison des Templiers, à la cour des comptes, et une partie importante d'un grand château. La chute n'est pas encore complète, mais au XVe siècle, le sens s'amoindrit. Et au XVIe, le Galata est devenu ce que nous le voyons. C'est bien la peine de venir des bords du Bosphore pour se dégrader si misérablement. N'est-ce pas ainsi que l'on voit des familles descendre peu à peu des hauts rangs et se perdre dans la misère et l'oubli de soi-même? Garce, garçon, gars. Ces trois mots n'en font qu'un proprement. Gars est le diminutif du bas latin garcio, avec l'accent sur gare. Garçon est le régime de gratiönem avec l'accent sur o. Garce est le féminin de gars. Dans l'ancienne langue, gars, garçon, signifie enfant mâle, jeune homme. Mais de bonne heure, il s'y mêle un sens défavorable. Et souvent, ce vocable devient un terme d'injure, signifiant un mauvais drôle, un lâche. Cette acception fâcheuse n'a pas pénétré dans la langue moderne. Mais il n'en est pas de même de garce. Tandis que dans l'ancienne langue, garce signifie une jeune fille en dehors de tout sens mauvais, il est devenu dans la langue moderne un terme injurieux et grossier. Il semblerait que le mot n'a pu échapper à son destin. En passant dans l'usage moderne, garçon s'est purifié, mais garce s'est dégradé. Il vaut la peine de considérer d'où provient ce jeu de signification. Le sens propre de garçon, garce, est jeune homme, jeune femme. Et comme les jeunes gens sont souvent employés en service, Le Moyen Âge donna par occasion à garçon l'acception de serviteur d'un ordre inférieur, au-dessous des écuyers et des sergents. Une fois cette habitude introduite, on conçoit qu'une idée péjorative ait pris naissance à l'égard de ce mot, comme il est arrivé pour valet. De là le sens injurieux que l'ancienne langue, non la moderne, attribue à garçon. Ceci est clair, mais comment garce est-il tombé si bas qu'il ne peut même plus être prononcé honnêtement? Bon, je ne veux voir là que quelques brutalités de langage, qui malheureusement a pris pied, flétrissant ce qu'elle touchait. Brutalité qui se montre, à un pire degré encore, dans fille, dont il faut comparer l'article à celui de garce. Garnement. Garnement, anciennement garniment, vient de garnir. Comment un mot issu d'une telle origine a-t-il pu jamais arriver au sens de mauvais drôle, de vaurien? Le sens original est ce qui garnit, vêtements, ornements, armures. Dans les hauts temps, il n'y en a pas d'autres. Mais au XIVe siècle, car ce grand néologisme d'acception ne nous appartient pas, il appartient à nos aïeux, l'usage transporte hardiment ce qui garnit à ce qui est garni. Et avec l'épithète de méchant, de mauvais, il fait d'une mauvaise vêture un homme qui ne vaut pas mieux que son habillement. Il va même, car il ne dit jamais un bon garnement, jusqu'à supprimer l'épithète méchant, mauvais, sans changer le sens, un garnement. On doit regretter que pour la singularité des contrastes, le sens de vêtement n'ait pas été conservé à côté de celui de mauvais sujet.